bonjour à tous. Auteur de plusieurs ouvrages, dont La Terre et les Forges, publié aux éditions des Montagnes Noires en 2011, que nous avions présenté sur cette antenne, Martine Hidou-Roussel vient de publier, toujours aux mêmes éditions, Et les phares se rallument, Saint-Nazaire, 1945-1948. Nous l'écoutons. Au micro d'Étienne Gache.
Martine Hidou-Roussel, bonjour.
Bonjour.
C'est avec plaisir qu'on se retrouve sur les ondes de Radio Alternante FM.
Moi aussi, je suis très, très heureuse de participer à une émission de radio.
Eh bien, on se retrouve déjà parce qu'on s'était rencontrés grâce déjà un peu à Saint-Nazaire, à la région nazérienne, à La Terre et les Forges,
oui.
Aux éditions des Montagnes Noires. Et cette fois-ci, c'est peut-être pas la suite, faut pas exagérer, mais Et les phares se rallument, on est toujours dans la région nazérienne, juste après la Deuxième Guerre mondiale, cette fois-ci en 1945-1948, aux éditions donc des Montagnes Noires de Claude Boissière, qui est un ami, finalement un ami de tous les écrivains, qui est un ami du monde de l'édition.
Oui.
Et donc, on retrouve dans ce livre un peu ce qu'on avait vu également dans la Terre et les Forges, c'est-à-dire un attachement aux simples gens, aux gens qui connaissent des difficultés, mais qui ont le courage de relever la tête, de s'en sortir. C'est un besoin pour toi d'écrire?
Oui, j'aime bien donner la parole aux personnes qui restent dans l'ombre et qui mettent tout leur pouvoir, toute leur énergie à relever la tête avec ce qu'ils ont justement autour d'eux. Je trouve ça très méritant et justement, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Alors, on passe aussi quand même dans tes livres, je dirais de l'un à l'autre, hein, puisque moi j'ai un peu un suivi sur ces deux livres-là. On passe un peu toujours dans le sud, donc de la Bretagne, du sud du Morbihan et le nord-ouest de la Loire-Atlantique, de la vie dure des gens à la terre il y a un siècle environ, les débuts de l'industrie, la navale et puis tout ce qui va autour, hein, toute la métallurgie, la sidérurgie, etc., l'exode rural. Et maintenant, cette fois-ci, on est dans la Deuxième Guerre mondiale un peu, et au lendemain, dans Saint-Nazaire bombardé, dans Saint-Nazaire en reconstruction, c'est un peu ton monde mental. Est-ce que ça tient au fait que tu es toi-même nazérienne?
Oui, bien sûr, moi je suis moi-même nazérienne, donc mes racines, mes parents sont venus après la guerre, hein, comme oui. Beaucoup de nazériens, et se sont retrouvés justement dans ces ruines. Tout Saint-Nazaire n'était pas détruit, il y a des maisons qui ont été résistées au bombes. Mais il y avait tout ce problème de reconstruction de la personne, psychologique, parce qu'il fallait revenir dans un endroit complètement détruit, et reconstruction aussi de la ville. Voilà. C'est d'ailleurs le titre que j'ai choisi, Et les phares se rallument.
Oui.
Donc les phares se rallument, c'est symbolique, bien
ils
sûr.
Ils ont été éteints.
Symbolique historique, symbolique psychologique aussi. Alors historique, c'est comme tout le monde le sait, c'est que les phares pendant la guerre avaient été éteints. Les Allemands avaient éteint tous les phares justement pour des questions stratégiques, hein, pour pas que pour pas avoir des repères sur la mer. Voilà. Et donc après la guerre, les phares se sont rallumés. Donc c'est aussi le symbole de la résurrection, de la guerre terminée, et la vie qui reprend. Hein, c'est la lumière et l'espoir. Donc il y a toutes les choses autour des phares et de la lumière. Voilà, autour de la ville qui se remet en place.
Se battre pour reconstruire et reconstruire sa vie.
Reconstruire et la reconstruire, enfin.
On est dans un contexte, de solidarité, d'esprit d'entreprise,
oui.
Mais également de solidarité très, très proche dans la famille, dans le quartier.
Oui. Oui, parce que les gens arrivaient, donc là, il fallait se reloger. Donc chacun aidait l'autre à se reconstruire, à se loger, à trouver la nourriture. Il y avait toute entraide hein, qui était installée autour des chantiers, autour de tout ce qui permet aux gens de vivre. Ben, comme on voit maintenant dans toutes les guerres, remarquez. Hein.
Oui, 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 bien sûr.
C'est international, je dirais. Hein. Quand on voit les informations, c'est la même chose hein, ce qui se passe. Hein.
Mais la région nazérienne a été durement touchée par la guerre. Alors j'ai noté trois choses, je pense que pour qu'on rentre bien dans le livre, il faut quand même savoir un peu ce qu'est l'affaire du Campbellton, les bombardements en général, parce que c'est quand même Saint-Nazaire, ville détruite hein, en 1945, et la poche de Saint-Nazaire,
oui, voilà.
C'est quand même une originalité. Le Campbellton, en deux mots, tu peux nous rappeler ce que c'est comme histoire?
Pour la poche
Oui, ou la poche, oui.
Bah oui, donc la poche, bon, ils ont été... Ils ont, le Paris a été libéré en 40.
En août 44, oui.
40, oui. Donc la poche, eux, ils sont restés 9 mois après. Mmh. 9 mois après, il y a eu une résistance, les Allemands étaient toujours là. Donc il y a eu, ils étaient enfermés justement, alors que tout le monde pouvait commencer à respirer.
Oui.
Donc toutes ces personnes qui étaient restées, parce qu'il y en a qui sont partis, hein, ils sont partis à la campagne, ils sont partis aux alentours. Alors tous ceux qui sont restés dans cette poche ont continué à subir toute la guerre, quoi. Ils étaient encore en guerre.
Oui, la guerre a continué jusqu'au 11 mai, hein, et non pas au 8.
Voilà, jusqu'au 11 mai, exactement.
Mais tu fais allusion... Oui, je m'excuse. Non, je continue. Donc, tu fais allusion également à un moment de temps à ces soldats anglais là, qui étaient sur ce bateau, le Campbellton, qui a explosé. C'est un moment de courage extraordinaire.
Oui,
dans
oui. Alors, je décris parce que ça se passe une nuit. Hein. Mm. Ça passe la nuit, donc c'est magnifique, ça. C'est magnifique, c'est un courage et puis une volonté de vouloir vaincre l'ennemi aussi. Oui. Ces bateaux qui arrivent... Enfin, on m'en a relaté personnellement... Et c'est vrai qu'il paraît que cette nuit-là, tous les historiens de Saint-Nazaire doivent le savoir mieux que moi, il paraît qu'il y avait du brouillard, les Allemands n'étaient pas à leur poste, donc ils ont pu justement arriver tout doucement, alors que c'était dans le noir, hein, puisque je dis qu'il n'y avait plus de lumière, aller sur des canaux et approcher ce bateau, ils sont arrivés jusqu'au bout.
Oui.
C'était quand même quelque chose d'extraordinaire de faire ça.
C'était
il y a eu plein de morts, effectivement.
Bien sûr, ils sont arrivés c'est sur terrible. Un bateau bourré d'explosifs pour faire sauter...
C'est vraiment un acte.
Ouais. Ouais. Ils savaient qu'ils risquaient leur vie.
Et, oui, bien sûr.
C'était vraiment un grand courage, quoi.
C'était un grand courage et puis une preuve de vaincre l'ennemi aussi, hein,
ah,
de forcer la porte, parce que finalement ils l'ont forcé cette porte.
Certainement.
Le bateau a été enfoncé. Et... Puis le lendemain, il y a eu cette explosion parce qu'ils avaient mis effectivement des explosifs sous le bateau.
Oui, oui.
Donc il y a eu tout ce je m'en souviens que les personnes dans ma famille ont subi cette explosion, c'était terrible. À midi, je crois, donc tout a explosé, et puis après, les Allemands sont partis en ville, ils sont rentrés dans toutes les maisons, voir ce qui se passait, essayer de retrouver les Anglais et tout.
Et là, il y a eu des moments de solidarité dans la population nazérienne.
Oui, bien sûr,
pour cacher,
caché beaucoup.
Ce qui était recherché.
Il y a du bruit. Il y a du bruit, on entend du bruit.
Ah bon ?
Déjà, le téléphone ne marche pas. C'est ici, hein, c'est pas...
Ah d'accord. C'est pas grave, c'est les inconvénients de l'enregistrement.
Mais là, les mondes d'arrêt, ça ne marche pas très bien ici.
Ah d'accord. On va quand même continuer, c'est pas très grave. Oui, je voulais dire, on va donc venir maintenant au livre lui-même. Alors, il y a quand même une construction littéraire, c'est-à-dire tous les personnages dont tu parles n'ont pas tous existé, ou alors c'est ça hein.
Non, c'est un roman. Hein.
Ils
ont existé peut-être. Oui, il y a eu quand même. Je pense que je me suis documentée quand même. J'ai lu pas mal de choses sur les personnes qui renaissent à Nazaire. Et puis après, j'en ai fait des personnages.
Mm.
Voilà. Et puis donc j'ai rajouté ce républicain espagnol.
Oui, mais on va.
C'est là qui. Bon, alors ce républicain espagnol, il fait partie d'un roman, mais il fait partie aussi. C'est aussi une personnalité qui a existé à Saint-Nazaire. Hein. C'est Juan Esquer. Donc c'est un personnage qui a vraiment existé. Hein. Il est venu travailler au camp Franco. Je suis en relation avec sa fille d'ailleurs, qui a écrit ses mémoires de républicain espagnol. Donc il est venu travailler au camp Franco après tout ce que je peux raconter dans mon livre. Enfin, dans mon livre, c'est un personnage de roman.
Mais dans le livre, tu nous le mets en catalan, lui. C'est
voilà.
Louis.
C'est un catalan, hein, c'est un catalan.
Et catalan, pas espagnol, alors.
Pas espagnol, mais il est catalan. Il est catalan.
Oui, oui. Et puis il insiste sur son originalité de
oui,
catalan.
Il est catalan. Il est catalan. En vérité, il est catalan. Enfin, il est catalan, oui. Il a existé. Lui, il a été prisonnier à Saint-Nazaire parce que, il a essayé... Il était dans la résistance aussi. Et il a été pris par les Allemands qui sont venus l'arrêter, je crois, au chantier, parce qu'il travaillait pour la construction de la base sous-marine.
Hein. Mmh.
Et il a été envoyé au camp d'Achaux. Voilà. Et il s'en est ressorti après.
D'accord.
Oui,
donc lui, c'est vraiment un personnage qui a de la chair, quoi, disons, hein, qui sort pas que de ton imagination.
Qui a un idéal, qui est parti de son Espagne, justement, qui a lutté contre tout le régime là-bas, qui est revenu ici.
Oui, c'est un combattant anti-franquiste.
Un combattant
républicain, on va dire. Hein, voilà. Alors, on a beaucoup de personnages, on ne va pas tous pouvoir les voir. Il y a un personnage très original dans ton livre, c'est une horloge.
Ah oui, c'est l'horloge de Saint-Nazaire.
Oui, voilà.
À la gare, qui n'existe pas, qui n'existe plus, effectivement. Et alors, si j'ai fait des recherches, elle est, il paraît, dans un jardin, je ne sais pas où, il faudra que je continue mes recherches. Elle est quelque part chez un particulier, dans son jardin.
Ah oui.
Voilà, donc je vais continuer, je ne sais pas où, je ne sais pas exactement, on ne m'a pas dit le nom, je n'ai pas continué mes recherches, mais elle existe encore, il paraît.
D'accord.
Elle n'est pas à sa place.
Non, l'histoire elle-même, donc, elle est celle de gens simples, et puis aussi, surtout, celle de femmes qui...
Oui, voilà. Qui ont insisté sur les femmes, parce que
voilà.
C'est un peu la libération des femmes. Hein, c'est un peu l'après-guerre, finalement, il y a les femmes qui prennent un peu le pouvoir, il y a une prise de conscience,
oui.
Et puis surtout, il y a le vote. Hein. Le vote qui va avoir lieu, qui a lieu, on leur donne le droit de vote. Hein.
Mmh.
Le droit de vote, donc les femmes, elles votent. Elles votent, d'ailleurs, je crois que c'est De Gaulle, bien sûr, en 1945. Il y a eu un vote, donc toutes les femmes dans toute la France ont voté, sauf elles ne pouvaient pas voter, je crois que c'était au mois de mai, parce que Saint-Nazaire était encore dans la poche.
Mmh.
Donc elle vote au mois de juillet. Voilà, donc c'est tout, c'est quand même...
Oui, ce sont les...
L'espoir des femmes, et puis en plus dans mon travail, bon, elles veulent travailler, c'est quand même une libération là aussi.
Oui, alors c'est pas un travail, enfin c'est un travail très original, puisqu'il y a un bateau, la Maria, hein, que tu
oui,
peux
voilà.
En dire un mot, et elles vont à la pêche.
Oui, elles vont à la pêche. Elles vont à la pêche parce que bon, elles sont au Brivet, hein, je sais pas si c'est le Brivet, c'est près de Méhant-Saint-Nazaire,
elles sont
dans des baraques là-bas. Il y a l'Espagnol, donc il vient avec son bateau, la Maria, lui c'est symbolique parce qu'il était pêcheur, et puis la Maria, ça lui rappelle l'Espagne, ça lui rappelle sa compagne qui est morte sous les bombes là-bas. En Espagne, donc il a appelé son bateau la Maria. Et puis ces femmes, justement, comme il n'y a pas d'autre travail, elles veulent se libérer en allant pêcher. Donc il y a toute une histoire autour de la pêche.
Gagner un peu d'argent,
effectivement, c'est un métier encore qui était à l'époque, et ça a duré après, qui était réservé aux hommes. Il n'y avait que les hommes qui allaient à la pêche.
Oui, c'est la libération de la femme, et puis c'est avoir la dignité de l'argent
oui, voilà.
Que l'on a dans la poche. C'est intéressant parce qu'on passe entre tes deux livres, et même dans celui-ci d'ailleurs, de la campagne un peu à la ville. Et alors il y a des choses que j'ai trouvées qui rappellent bien la campagne, quand tu parles des plaisirs de la campagne, un repas avec du pain, du lard et du cidre. Alors
oui.
on est bien chez nous là.
Oui, voilà.
Et ensuite on est beaucoup dans le poisson, alors les recettes de poisson.
Oui, parce qu'il y a le catalan qui sait faire fête aussi, mais il apporte sa culture en même temps.
Mmh.
Il leur apporte sa culture, il leur apporte la musique, et puis en même temps, il y a une tendance que j'ai voulu faire de gaieté aussi. Ils sont assez gais quand même dans l'ensemble.
Oui.
À part tout ce qui se passe, il y a les chantiers aussi à côté, il va y avoir des grèves, mais donc il y a quand même le dessous est dynamique. Il y a c'est pas des personnages qui baissent la tête de tous les côtés.
Mais on sent bien toute une société qui se remet en place.
Et on est en place dans la gaieté, enfin dans le dynamisme, c'est voilà.
Oui, on va à la pêche, on fait griller les poissons. Et on boit du vin blanc aussi, le vin des coteaux de la Loire bretonne. Alors je me suis dit en lisant ça, je dis finalement, je pense que Martine, elle doit être assez favorable à une Bretagne à 5 départements.
Ah bah évidemment.
Non mais
la Loire Atlantique devrait être bretonne, c'est évident.
Bah bien sûr, mais...
Je trouve que je suis allée la semaine dernière à Saint-Nazaire parce que je suis allée faire des dédicaces. Mais quand même, il y a quand même, j'ai vu qu'il y avait des fest-noz, il y a l'école d'Iwan, il y a des cours de, il peut y avoir des cours de danse. Il y a quand même tout un élan là aussi. Qu'il n'y avait pas dans le temps quand j'y étais, moi. Là, il y a quand même, je vois, il y a beaucoup d'ouverture vers la Bretagne dans ce sens-là, je trouve, et c'est très, très intéressant.
Ah ben oui, aujourd'hui...
Même si on n'a pas donné l'ouverture, justement, à la contradiction, la Loire Atlantique n'a pas été dans les départements, mais on voit que les gens à côté, justement, eh ben, revendiquent par de la culture, et ça, c'est bien. Il y a un drapeau quand même, il paraît qu'il a été enlevé à la mairie de Saint-Nazaire. Ça, c'est terrible.
Ah, ça, je ne sais pas. Je
apparemment,
sais pas.
Il y a quand même les personnages, les habitants voilà, ouvrent la culture, et ça, c'est intéressant.
Pour revenir à la culture, alors l'écriture, évidemment, c'est quelque chose d'important pour toi. Il y a des passages où on voit bien, tu quittes le dialogue pour essayer de donner un peu corps aussi à une prose. Il y a le plaisir de l'écriture, en général, quand on écrit, il faut avoir du plaisir à le faire.
Oui.
Et tu t'appuies un peu là sur la lumière, sur les vagues, sur l'estuaire,
voilà.
Un peu.
Voilà. C'est parce que c'est un peu l'espoir aussi. Ça fait partie de leur. Il y a toute la lumière de la Loire, toutes les vagues, tout. C'est un peu. Et puis ils sont poétiques en même temps.
Mmh.
Hein, on voit les femmes, elles vont le soir. Il y a des couchers de soleil. C'est une force aussi. Hein. Je veux dire, ça fait. Bon, bah c'est une force. Un peu l'art, hein, comme quand quelqu'un qui regarde un tableau. Mais là, ils n'ont pas de tableau puisqu'il n'y a rien, mais ils regardent la Loire, ils regardent le ciel, ils regardent. C'est quand même une ouverture, voilà, vers quelque chose d'intéressant.
Mais tu inscris donc tes livres dans un décor. Alors celui-ci, il est très très nazérien. Le précédent, il passait par les forges, hein, c'était un peu différent. C'est important pour toi de bien connaître le lieu dans lequel tu veux faire vivre un peu les personnages que tu crées.
Exactement. Je peux pas travailler ou je peux pas faire quelque chose si je ressens pas les choses. Pour moi-même, je sente les personnages, les lieux. Il faut que je m'imprègne, autrement je peux pas écrire. Si je n'ai pas le mot, c'est pour ça que j'écris avec beaucoup de, je mets beaucoup de temps à écrire, hein, parce qu'il faut que je sente le mot exact qui soit un peu dans, enfin je dirais dans ma chair, effectivement dans mon corps. Il faut que je sois imprégné. Je peux pas, il faut que je le sente, que je qu'il soit dans la main, et là c'est bien.
Mais dans ton écriture, et je pense que ça va plaire à nos auditeurs du département, et notamment nos auditeurs nazériens qui sont nombreux, on sent que ton cœur penche plus vers Méhan Pinouette que vers La Baule, alors que tu es dans le milieu, finalement.
Oui.
C'est un peu une image, mais tu parles avec beaucoup de respect, finalement, de ces petites gens qui...
Qui,
il y a deux ou trois générations, ont su reconstruire le monde dans lequel on est aujourd'hui.
Quoi. Voilà, c'est les personnes du plus bas, les petites gens, comme on dit, si on peut les appeler comme ça, parce que les petites gens, ils sont peut-être pas si petites gens que ça.
On est bien d'accord.
Des gens qui ont une dignité, qui disent rien, mais qui font beaucoup de choses.
Bien
et
sûr.
Ça me plaît beaucoup.
Mais ça se sent.
Ils font par leurs propres moyens, je veux dire.
Ça se sent, on va arriver à la fin de cette émission. Mais est-ce que tu as d'autres projets actuellement?
Oui, j'en ai un autre, effectivement, mais là encore, il est en gestation, hein, dans la tête.
Hein. Alors on dira rien.
Parce que moi, il faut que je reconstruise. Ouais. Oui, j'en ai un autre finalement. Mais je vais encore, il faut que je le pense, il faut que je pétrisse. C'est un peu une pâte, hein. C'est comme quelqu'un qui fait du pain finalement.
Ben voilà, c'est ça, mais c'est un peu la connaissance aussi, un peu comment fonctionne quelqu'un qui écrit.
Voilà,
parce
moi c'est un peu la pâte à pain, hein. Il faut que ça...
Voilà. Faut que ça lève.
On sent bien toutes les choses et les personnages, et puis après ça vient petit à petit.
Eh bien, je vais rappeler donc le titre de ton livre, hein, Martine Hideau Roussel.
Oui.
Et les phares se rallument, Saint-Nazaire 1945-1948, aux éditions des Montagnes Noires. Et merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté, surtout.
Oui,
temps de m'écouter.
C'était un plaisir.
Ben, merci.
Voilà, au revoir Martine.
Et bonne journée, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Beaucoup de livres à l'approche des fêtes, comme tous les ans, bien évidemment, et l'édition régionale se porte bien. Nous avons reçu beaucoup de livres, beaucoup de propositions, beaucoup de services de presse. Si on devait faire un tri, ce serait difficile, donc un petit peu rapidement, je dirais, on a reçu l'annonce de la réédition des Naufragés du Ver de notre ami nantais Didier Saint-Martin. C'est à la Cop Braise, c'est un livre qui avait déjà connu son public et qui ressort sous forme de livre de poche. Toujours de la Cop Braise, les Landes vivantes. Hein, la Lande n'est pas seulement un département qui est coincé entre la Gironde et l'Atlantique. C'est d'abord une formation végétale, un milieu naturel très caractéristique, pauvre également d'ailleurs. Et on la trouve sur toute la façade atlantique, de la Norvège au Portugal. Et donc chez nous aussi, évidemment, dans le sud de la Bretagne, où on trouve des brières, des rhododendrons, etc. Et c'est un énorme travail qui a été fait par Emmanuel Holder, un spécialiste. Un très beau livre également qui est donc édité par la Cop Braise à la veille de ses fêtes. C'est un beau livre cadeau. On a reçu également d'un éditeur qui est très engagé, là, cette fois-ci, Yoran Mbaner, un livre sur les langues régionales. Le titre, c'est « Langues régionales au bord du gouffre » de Thierry Kranzer. C'est un Alsacien. Un ancien assistant parlementaire qui est établi actuellement à New York.
Il préside l'Union alsacienne et c'est un livre qui a pour ambition d'offrir des pistes pour sortir les langues régionales de la France de leur clandestinité. Donc on sait que c'est un sujet qui est toujours très très d'actualité, on va dire. Et puis on a également reçu, toujours très politique, un livre qui s'appelle « La gauche et la revendication bretonne » de Georges Cadieux, toujours aux éditions M. Banner. Alors je précise que ce livre, qui est un Georges Cadieux, c'est un journaliste, c'est un ancien journaliste de RBO. Il a travaillé pour des livres, bien sûr, pour des documentaires de télévision. Et il fait un constat, c'est que la gauche est toujours très positive sur la question de la revendication régionale lorsqu'elle est dans l'opposition, et elle déçoit lorsqu'elle est au gouvernement. On ne peut pas dire que la farce du redécoupage régional que l'on vit actuellement ne lui donne pas raison. Donc ces livres des éditions Yoran M. Banner, on peut les trouver toujours évidemment sur le site des éditions. Et puis également la diffusion Cobrace, de même qu'un livre aux sources de l'autonomisme alsacien-mosellan d'un vieux militant, Michel Kremper. Là, on est vraiment dans l'Alsace profonde. Et ce diplômé d'études de sciences politiques de Strasbourg a participé déjà dans les années 60 à des travaux. Autant dire que c'est quelque chose qui le passionne énormément. Alors, sur d'autres éditeurs, évidemment, je propose évidemment de connaître aux éditions Vagamundo le livre de Isabelle Mathéus, Maria Manuel et les autres, un livre sur lequel nous reviendrons dans nos émissions sur Alternante. Et puis également un très bon éditeur que nous aimons beaucoup, Claude Boissière, les éditions des Montagnes Noires, qui nous présente un nouveau livre de Martine Hidou-Roussel. C'est « Et les phares se rallument », Saint-Nazaire 45-48, c'est-à-dire la reconstruction après 1945, après la poche de Saint-Nazaire. Nous avions déjà reçu Martine Hidou-Roussel et nous allons la recevoir encore. Nous l'avions reçue pour un précédent livre, « La terre et les forges », toujours édition des Montagnes Noires. Donc on a également plusieurs livres qui nous sont venus, qui sont très, très intéressants comme toujours, et notamment un qui reprend Yves Persson. Yves Persson est un personnage très connu, un grand spécialiste de l'histoire de l'Afrique, et les éditions IMAF Cartala reprennent un grand nombre de ses textes, des textes qui font véritablement autorité un peu sur le sujet. C'était un défricheur, un créateur de concepts et un grand analyste de la question de la décolonisation. Donc je rappelle Yves Persson. Et puis enfin, on a toujours donc des livres en grand nombre, et notamment Le Monde des Celtes Anciens, Le Monde des Celtes Anciens aux éditions de Yoran également, de Venceslas Kruta. Alors les Celtes Anciens, ça nous amène à un temps très 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 loin. On va rentrer là carrément dans l'Antiquité. Et Yoran nous propose également une histoire de l'Ukraine. Alors l'histoire de l'Ukraine, c'est loin de chez nous, mais il se passe tellement de choses dans le monde que l'on a peut-être intérêt à connaître un petit peu toute l'histoire de notre continent et de ce qui se passe autour de nous. Enfin, je retiens encore trois ou quatre livres qui m'ont un peu intéressé. C'est les Noces d'autrefois en Bretagne. C'est la Cobrace là, qui a présenté ces livres pour les fêtes. Les Noces d'autrefois en Bretagne de Joël Lenouen, avec une très très belle iconographie en noir et blanc. La noce, c'est toujours un grand grand moment de plaisir collectif, et c'est vrai que la Bretagne était très très habituée à inviter tout un village lorsqu'il y avait un mariage. Donc toujours chez le même éditeur, du journaliste Thierry Gigourel, bien connu, Les sports populaires des Bretons. Là encore, c'est un très beau livre. Un livre cadeau, un livre carré avec une très belle iconographie. Et là aussi, les sports populaires attiraient beaucoup de monde. C'était pas du tout le sport comme aujourd'hui pour être le champion, gagner la médaille et au besoin se doper pour ça. C'est au contraire, ce sont des sports où on réunit tout le monde, où on fait du tir à la corde, etc. Ce sont des vieilles traditions de chez nous qui sont très très bien représentées. Enfin, si vous aimez la musique, un peu dans le même style que des livres qui sont sortis sur Gilles Servat, par exemple, de Frédéric Jambon, un très beau livre sur le musicien Didier Esquiban, Conversation avec Didier Esquiban, Les tribulations d'un musicien breton. C'est un livre que la COP nous propose également à cette veille de Noël. C'est également un livre, c'est pas seulement un livre cadeau, d'ailleurs, l'autre non plus, ce sont des livres qu'on a intérêt à lire, que l'on peut offrir.